Le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Et justement, le 20, à la Maison du Projet de Lens a eu lieu le Forum de l'économie sociale et solidaire. L'occasion de rappeler les fondements de cette économie alternative, d'en discuter lors d'ateliers débats, de découvrir aussi les acteurs de l'ESS dans le bassin minier et d'écouter une conférence de Pierre Thomas, vice-président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Un forum organisé par le COTES, Conseil territorial de l'ESS.
Je suis Pierre Thomas, vice-président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France. La CRES réunit l'ensemble des acteurs sur la région. Elle a comme mission d'observer, elle a comme mission de promouvoir et elle a comme mission de développer l'économie sociale et solidaire sur son territoire, donc là, pour nous, les Hauts-de-France.
Est-ce que vous pourriez rappeler quelques chiffres qui sont représentatifs de ce qu'est l'économie sociale et solidaire dans les Hauts-de-France ?
Alors en Hauts-de-France, l'économie sociale et solidaire, c'est à peu près 200 000 emplois, qui sont des emplois pérennes, pour 12 000 établissements en région. Et on a autour de cette répartition-là des 4 grandes familles de structures, les coopérations, les mutualistes, les associations, les fondations et les entrepreneurs sociaux qui sont le volet nouveau de la loi de 2014.
Quelle est actuellement la dynamique dans les Hauts-de-France par rapport à l'économie sociale et solidaire ?
Alors à l'heure actuelle, nous avons une baisse des emplois et qui est assez significative pour que la Chambre régionale et son bureau prennent en considération ces éléments. Même si c'est une baisse légère, elle est significative sur un secteur qui est celui des associations, de par la disparition des contrats aidés que finançait auparavant la direction du travail et qui aujourd'hui est contingentée de façon assez drastique. Alors on espère beaucoup, par contre, dans les nouveaux plans que propose l'État autour de l'insertion, puisque dans le cadre des activités d'insertion par l'activité économique, l'État prévoit un plan pour faire x2 des emplois d'insertion. Et puis on a aussi une attention particulière aux expérimentations de type territoire zéro chômeur, qui concernent donc les personnes au chômage depuis plus de 2 ans, qui sont aujourd'hui allocataires du RSA, et qui, sans activité, avec des difficultés connexes à leur situation personnelle, ont besoin d'un accompagnement particulier. Et l'expérimentation territoire zéro chômeur est un axe de développement qui nous intéresse.
Vous avez parlé pendant votre prise de parole de la production d'un livre blanc. Pourriez-vous rappeler ce qu'il contient, quel est son constat, quelles sont ses préconisations ?
Alors le livre blanc fait partie des résultats de l'ESS Tour que nous avons mené l'année dernière pendant le mois de l'économie sociale et solidaire, où sur 6 territoires on a réuni l'ensemble des acteurs. C'est plus de 140 personnes qui ont participé aux manifestations. C'est plus de 100 contributions sur la plateforme pour orienter les axes de travail de la Chambre régionale sur les 3 ans qui nous attendent, donc 2020-2022. Le premier axe, c'est d'abord de soutenir l'ensemble des acteurs, de les faire se réunir, se reconnaître pour agir ensemble et être plus forts ensemble. Le deuxième, c'est de développer les compétences des salariés de l'économie sociale et solidaire et développer les compétences en termes de communication, de développement de nos activités, de faire savoir ce que l'on fait et de faire savoir la valeur ajoutée de ce que nous faisons. C'est dans ce cadre-là que j'ai parlé du programme VISE, qui est un programme qui a comme ambition de valoriser l'impact social, l'impact économique sur les territoires de l'ensemble de nos actions. Et le troisième axe, c'est un axe d'accompagnement des territoires, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie de proximité, c'est une économie qui sert les publics, les personnes, les citoyens sur des petits territoires, et c'est une économie qui est non délocalisable. Et ça, c'est un élément assez important dans le monde d'aujourd'hui.
Lucien, je fais partie de ce qu'on appelle le comité d'animation du COTES, le conseil territorial de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, sur le bassin minier, qui pour nous correspond aux agglomérations de Lens-les-Vins et Nain-Carvin.
Alors, lors de cette journée, tu as parlé de réussir à mettre en œuvre ou développer une ESS de résistance. Qu'est-ce que ça veut dire ?
L'économie sociale et solidaire, c'est une grande famille Autrement dit, comme dans toute grande famille, il y a des sensibilités extrêmement diverses. Alors je dirais que on peut mettre en exergue trois sensibilités dans l'ESS. Il y a une première sensibilité, c'est ce que moi j'appelle, enfin je ne suis pas tout seul à l'appeler, c'est ce que on pourrait appeler une ESS de réparation. L'ESS de réparation, ça veut dire qu'on est dans un système qui s'appelle le capitalisme qui fait beaucoup de dégâts. Destruction des services publics, développement de la précarité, enfin je peux évoquer plein d'aspects de ce système prédateur qu'est le capitalisme. Et donc, au sein de l'ESS, il existe, d'une manière réelle, une sensibilité de réparer ces dégâts du capitalisme. S'occuper de la pauvreté, s'occuper de tels services publics défaillants, c'est donc un axe central de l'ESS de réparation des dégâts. Une deuxième sensibilité, c'est l'ESS d'accompagnement. Le capitalisme, c'est un système qui est basé sur du management, de la performance. Et dans l'ESS, il existe effectivement cette sensibilité qui est qu'on pourrait quasiment faire au moins aussi bien, si ce n'est mieux, dans le domaine de être performant économiquement, être rentable, être meilleur que l'entreprise traditionnelle. Et donc c'est une deuxième sensibilité dans l'ESS. Alors moi effectivement, et puis nous sur le territoire du bassin minier, on est quand même beaucoup d'acteurs à ne pas être convaincus par ces deux sensibilités. Autrement dit, elles existent, on les respecte, à des degrés divers d'ailleurs, mais on préfère s'inscrire dans la troisième sensibilité qui est une ESS de résistance, autrement dit une ESS qui effectivement résiste aux dégâts du capitalisme, refuser de se mettre dans l'accompagnement du système, autrement dit on s'inscrit clairement dans le fait de, même pas rénover mais transformer, sortir de ce système pour imaginer une autre vie en société, d'autres rapports de production, d'autres modes de production. Donc cette ESS de résistance est une ESS qui signifie que nos organisations de l'économie sociale et solidaire doivent avoir une boussole très claire, qui est une boussole attachée à la transformation, transformation sociale, transformation écologique et changement de société, autrement dit, finalement, sortir du capitalisme.
Je suis Benoît Deck et je fais partie du conseil territorial de l'ESS du bassin minier, donc l'un des animateurs, et puis engagé dans plusieurs structures de l'économie sociale et solidaire sur le territoire de longue date.
Alors si je t'interpelle, c'est parce que lors de ta prise de parole, tu as insisté sur le fait de développer des nouvelles pratiques pour l'économie sociale et solidaire, et plus spécifiquement dans le bassin minier. Qu'est-ce que tu entends par là ?
Quand on est dans l'économie sociale et solidaire, il est tout à fait naturel qu'on se pose sans arrêt la question du sens de ce que l'on fait. C'est naturel pour tout le monde, mais c'est encore plus important dans l'économie sociale et solidaire. Comme nous, notre vision, c'est une vision qui veut promouvoir une économie au service de l'humain et pas au service du capital ou de l'argent, mais bien au service de l'humain, eh ben, l'humain, c'est complexe, comme par nature, et donc il faut sans arrêt se questionner sur est-ce qu'on est dans la bonne direction, est-ce qu'on répond bien aux attentes, est-ce qu'on apporte véritablement un peu plus de bonheur à la population autour de nous. Et ça, ben, il faut sans arrêt le remettre en cause, sans arrêt le questionner, sans arrêt le faire. Il y a des méthodes qui ont été développées pour ça au niveau de la CRES, mais il y a aussi des pratiques qui sont faites au niveau de chacune de nos organisations qu'il faut interroger, qu'il faut revoir. Et je crois que c'est important qu'on se mette toujours dans cette dynamique-là. Ça fait partie de l'ADN de l'ESS.
Et alors concrètement, comment ça peut prendre forme ? Est-ce que la maison de l'économie sociale et solidaire qui va ouvrir à Lens en fait partie ? Est-ce qu'il y a d'autres idées qui pourraient être appliquées justement pour ce plus de bonheur ?
Effectivement, aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, elle est très présente sur le territoire, parce que ça représente à peu près 12% des emplois, mais qui en parle ? Qui est au courant ? Il y a besoin d'avoir de la visibilité. Donc la maison de l'ESS qu'on veut mettre en place à Lens, effectivement, qui va ouvrir normalement fin 2020 à Lens, sera le lieu de visibilité, le lieu où les idées vont bouillonner, le lieu où l'ensemble des acteurs de l'ESS pourront venir pour partager entre eux, pour échanger, pour construire ces nouveaux modèles économiques et sociaux, cette nouvelle richesse que l'on veut apporter au niveau des habitants de notre territoire, à travers tout simplement, pour moi, la première richesse, c'est le bonheur. C'est cette maison sera le lieu où on va pouvoir fédérer et cristalliser un certain nombre d'initiatives. Alors, c'est la maison qui va avoir pignon sur rue, qui va être le lieu où va se mettre en place ce que l'on a appelé l'université populaire de l'économie sociale et solidaire. Donc ce sera chacun pourra venir trouver là, chaque organisation, chaque structure, chaque partenaire, chaque habitant du territoire pourra venir trouver là les ressources pour pouvoir développer et comprendre ce que c'est que l'économie sociale et solidaire et comment on peut s'y engager.
Dominique Réal, je suis un membre de l'association de l'économie sociale et solidaire du bassin minier 62. Cette association, elle a été créée dans le but de réfléchir à mettre en place sur le territoire de Lanciévin une des maisons de l'économie sociale et solidaire. Cette maison va pouvoir enfin voir le jour en septembre-octobre 2020, puisque nous avons trouvé un bâtiment qui correspondait à nos attentes au cœur de Lens.
Comment ça fonctionne? Quels sont les objectifs de l'association?
L'objectif de l'association, ils sont quadruples de mémoire. La première d'entre elles, effectivement, c'est donner de la visibilité sur le territoire de l'ESS. C'est de promouvoir une économie sociale et solidaire à forte valeur ajoutée par rapport à une charte éthique, notre charte éthique. C'est aussi montrer que les acteurs de l'ESS du territoire sont capables d'être autonomes, de pouvoir présenter et de faire vivre des projets sans aide de collectivités, d'argent public. Et enfin, le quatrième, c'est de pouvoir inventer et promouvoir de nouvelles formes de développement de structures, de développement économique, être innovant.
Vous avez parlé de valeur ajoutée, mais cette valeur ajoutée, elle n'est pas économique. C'est pas la valeur ajoutée au sens habituel dans lequel on l'entend.
Notre charte, elle base sur quatre marqueurs. Le premier, c'est d'abord l'utilité sociale du projet. Le deuxième, c'est vraiment l'organisation collective. La troisième, c'est la gouvernance démocratique. Et enfin, la quatrième, la lucrativité limitée. L'idée, effectivement, de là, c'est réfléchir ensemble à chacun des projets, donner du sens à ces projets collectivement et aider chacun de ses porteurs. La maison, elle aura des buts multiples. Je les ai rappelés tout à l'heure, la promotion, l'innovation, mais également un lieu de rencontre, une université populaire, un lieu de vie où on aimerait venir discuter, échanger, boire un petit café, une petite bière locale autour du bar, se restaurer avec des produits locaux. Ça sera aussi, enfin il y a plein de projets, mais ce sera aussi une conciergerie solidaire. Nous allons également réfléchir à une gestion hôtelière, des chambres chez l'habitant, et nous avons ensuite d'autres projets comme la possibilité de réaliser une fois par mois, pourquoi pas un marché solidaire, toutes les semaines un marché local. Enfin, il y a plein de projets et plein de partenaires qui souhaitent s'investir avec nous dans ce projet.
Et donc cette maison de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle le Toit commun, où est-ce qu'elle va se trouver?
Eh bien, le Toit commun va se trouver rue Lannoy, au cœur de Lens, dans l'une des rues principales qui monte à l'église Saint-Léger, à la mairie.
Laurent Zaderatsky, donc bénévole à l'association Culture et Liberté. C'est une association qu'on appelle éducation populaire. Alors, quand je dis ça, j'ai tout dit et rien dit. L'idée de l'éducation populaire, en très 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 vite, c'est de dire que chacun peut être auteur et acteur de sa vie à partir du moment où il a les outils pour comprendre le monde. Et une fois qu'il a compris le monde, face à des situations qu'il peut juger en général injustes ou insatisfaisantes, comment on va faire transformation de société pour que la règle commune, ce soit l'égalité entre les uns et les autres, et puis finalement l'émancipation.
Alors aujourd'hui, c'est le Forum de l'économie sociale et solidaire. Dans quelle mesure Culture et Liberté s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire?
Alors notre inscription, elle se fait via cette idée dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire sur le principe de l'égalité et de vraiment une lutte acharnée contre tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un rapport de domination. L'économie est bien évidemment un des secteurs où le modèle aujourd'hui dominant, c'est l'exploitation, la domination. pour nous, mouvement d'éducation populaire, il y a l'idée très très forte, et c'est comme ça qu'est né Culture et Liberté, ce mouvement, c'était au départ des salariés qui, à certains moments, ne comprenaient pas pourquoi les salaires n'augmentaient pas, et qui n'avaient pas suffisamment d'arguments pour pouvoir contester ou remettre en cause ce qu'on présentait comme étant inéluctable. Le patron disait, ben non, écoutez, là, la boîte, on ne peut pas augmenter vos salaires, c'est pas possible, vous comprenez, la conjoncture, etc. Et dans les années donc, 70, il y a un certain nombre de salariés qui ont dit, mais ils nous racontent ça, mais finalement, on prend ça comme ça, sans chercher à comprendre, on a envie de comprendre. Et c'est parti de là. Donc le lien avec l'économie sociale et solidaire et, l'économie et l'éducation populaire, c'est l'idée vraiment que un ou une compte pour un et, ou pour une. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui serait plus important que l'autre. Ce sont nos intelligences collectives qui vont pouvoir faire que socialement, écologiquement, on puisse avoir un développement qui soit... au service de tous et de toutes.
Moi, je m'appelle Joseph Aymar, je suis gérant d'une cigale sur Arras et je suis coprésident de l'Association régionale des cigales pour les Hauts-de-France.
Et alors, qu'est-ce qu'une cigale ?
Ce sont des clubs de citoyens. Et tous les mois, on alimente un fonds commun d'investissement. Et moi, par exemple, je verse une trentaine d'euros à ce fonds commun. Et quand des porteurs de projets nous sollicitent, on intervient dans l'entreprise par prise de capital ou prêt d'honneur ou avance en compte associé. Et pendant 5 ans, on accompagne l'entreprise dans son activité via un parrain ou une marraine, ou deux parrains ou deux marraines. Et au terme des 5 ans, on se retire de l'entreprise et on continue notre chemin ailleurs. C'est bien notre argent de citoyens qui interviennent. On est entre guillemets des petits capitalistes à l'intérieur de l'entreprise.
Alors pour essayer de bien comprendre, comme on parle d'argent, j'ai envie de faire le comparatif avec une banque. Quelle est la différence et comment on peut, à partir de ce qu'est une banque, se représenter ce qu'est une cigale ? Est-ce que c'est juste simplement un club d'épargnants ? Est-ce que c'est une coopérative ? Est-ce que c'est une banque mutuelle, autogérée ?
Oui. Alors nous, notre statut, c'est une indivision. Il y a une loi qui gère les clubs d'investisseurs et on est une indivision. Et on vit pendant 5 ans et si on veut continuer, il faut refaire une nouvelle indivision 5 ans après. Donc, et comme on rentre que 5 ans dans une entreprise, on est obligé de sortir de l'entreprise. Alors si l'entreprise marche toujours, elle nous rembourse au capital. Si elle n'a pas marché, bon, on a perdu notre capital, c'est du capital risque. On n'a pas le statut de banque. Notre rôle, c'est de diriger une partie de notre épargne vers des choses qui nous paraissent utiles et qu'on va suivre nous personnellement. Ce n'est pas de l'argent public, c'est notre argent qu'on met dans des projets et au bénéfice des porteurs de projets.
Quels sont le type de projets ? J'imagine que l'objectif n'est pas de faire du profit, c'est des projets qui ont une valeur ajoutée plus sociale ou plus humaine.
Je vais vous dire les 3-4 projets qu'on a accompagnés dernièrement sur Arras. Hein. Arras, on est actionnaire d'une coopérative qui s'appelle Le Raperché, qui est une coopérative, c'est un café culturel, citoyen et solidaire. On accompagne un restaurant bio, Beautiful à Arras. On accompagne un magasin bio qui s'appelle Biomonde aussi, à Saint-Laurent-Blangy près d'Arras. Et on a investi dans Enercop. Enercop, c'est une coopérative également qui s'engage à faire produire autant d'électricité verte qu'elle en vend.
Et alors en quoi ça engage en tant que citoyen ? Est-ce que tout le monde peut y participer ? Est-ce qu'il faut plus que simplement donner quelques euros ou quelques dizaines d'euros par mois ?
Nous, on n'est pas là pour faire du business, on est là pour aider des jeunes. Quand on a accompagné quelquefois des entrepreneurs, je connais des cigales dans le cadre de mes engagements régionaux, où il y a énormément de comptables, d'experts comptables dans ces cigales. Ils ont du mal à prendre des décisions parce que bon, il y a toujours une part de risque et ils veulent toujours essayer d'affiner le risque pour pouvoir l'éviter. Moi, ce que j'ai dit quelquefois à mes cigaliers, imaginez que vous allez accompagner votre fils ou votre fille dans son désir d'entreprendre, est-ce que vous n'êtes pas prêt à perdre un petit peu d'argent? Il n'y en a pas un qui dit non. Hein. Tout le monde est d'accord pour aider des entrepreneurs.
Ce reportage a été réalisé lors du Forum de l'économie sociale et solidaire organisé à la Maison du Projet de Lens le 20 novembre. Vous avez pu entendre successivement Pierre Thomas, vice-président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, Lucien Petit et Benoît Deck du COTES, Conseil territorial de l'économie sociale et solidaire, Dominique Auréal de l'association de l'ESS du Bassin minier 62, Laurence Zaderatsky de Culture et Liberté et Joseph Aymar, gérant d'une cigale à Arras et coprésident de l'association régionale pour les cigales des Hauts-de-France.